Вали Андрей из моего кафе Ориентал. J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai décidé de compagnie au passage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour cet échange citoyen dans Parole aux auditeurs. Le dimanche 1er mai dernier, le monde a célébré la Journée internationale du travail. C'était l'occasion pour les États et leurs gouvernements de réfléchir sur le projet d'une société émancipée par la lutte efficace contre le chômage. La RDC vient en effet d'adopter au niveau du Sénat le nouveau Code du travail 15 des 334 articles qui compte l'ancien code viennent d'être modifiés. Parmi les principales innovations apportées au texte, on note notamment la durée quotidienne de travail qui passe de 9 à 8 heures, la possibilité pour la femme d'effectuer un travail de nuit, la possibilité pour un étranger d'être désigné à la direction d'un syndicat. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour une intervention en direct, mais le débat s'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Paul Badenyaman est à la mise en monde de ces magazines. Julie Pézabongonda est au standard. Gilles Longuembo est à la réalisation et coordination. Et Piro et la Meiji vous le présente sous la supervision de Martin Seboujang. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Paroles aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et la Meiji.
Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 015-2002 du 16 octobre 2002, en examen dans le deux chambres, le Sénat a adopté. Rappelons quand même que la loi modifiée portant code du travail consacre la rupture du travail des communs accords entre employeurs et employés, la fixation de la semaine du travail à 6 jours, la possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail sans que cette suspension soit considérée comme une cause de résiliation, un étranger a la possibilité d'être désigné à la direction d'un syndicat, le statut sérologique au VIH comme motif des licenciements est exclu, l'âge de conclure un contrat de travail passe de 16 à 18 ans. Autant de points révisés dans ces codes de travail. Est-ce que ceci peut arriver à contribuer à améliorer les conditions de travail en RDC et l'ensemble de ces mesures aussi lutter efficacement contre le chômage? Voilà la question au centre de notre échange. Sylvain, vous êtes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Bonjour Sylvain et bienvenue dans cet échange.
Merci beaucoup pour m'avoir associé à ce débat important, puisqu'il porte sur le travail. Et le travail, c'est le moteur vital. Donc, je voudrais d'emblée dire que c'est une bonne chose de corriger le code du travail congolais, ce qui est normal. Mais aussi, ici, je relève que la République démocratique du Congo n'est pas un pays à carence de textes réglementaire de tous les secteurs de la vie ou de sa vie. Alors, c'est vrai, il faut harmoniser et peut-être rendre facile l'espace de travail, ce qui est tout à fait normal lorsqu'on regarde comment les autres États du monde essayent d'améliorer au quotidien les conditions relatives au travail et aussi des conditions relatives au travail lui-même. Alors, ce qui se passe dans notre pays, il faut d'abord relever l'article 13 de notre Constitution, qui est violé systématiquement par le système du travail congolais. Ça veut dire quoi? La Constitution empêche que l'accès au travail soit soumis à des appartenances politiques. Malheureusement, lorsque vous regardez, puisque moi je voudrais bien qu'on puisse analyser l'aspect de l'administration publique. Quand vous regardez l'administration publique, qui renferme au moins 80% du secteur du travail et de l'emploi au Congo, vous vous rendez compte que les éléments dont l'on fait allusion dans les codes de travail n'est pas respecté. Pourquoi? Parce que les gens se sont d'abord revêtis, n'est-ce pas, de la couleur politique avant d'intégrer l'administration publique. Et donc, le fait de respecter les normes est déjà hors jeu. Pourquoi? Parce qu'on est plus attaché à des questions politiques. Pourquoi je le dis? Puisque allez vous rendre compte, lorsque l'on dit par exemple les cas des personnes vivant avec handicap, en principe, cela suppose que l'on regarde bien les compétences et non pas une couleur politique. Et lorsque vous regardez dans la société congolaise, il y a beaucoup de ces gens qui ont des capacités, mais qui ne sont pas utilisés. Puisqu'à la conclusion, je vous dirai ce que moi je pense du secteur du travail congolais. Lorsque vous regardez, vous avez vous-même dit, au sein de l'association publique, le fonctionnement des syndicats, dans les plus grands services de l'État, les ISP, je suis à l'Ituri, je connais ce que j'ai dit, les instituts supérieurs et universitaires qui fonctionnent sans syndicats. Alors je me pose des questions. Est-ce que depuis que le Congo existait, il n'y a pas eu déjà une réglementation en matière syndicale? Il y en avait. Mais là, le Sénat, peut-être, ou le Parlement congolais, vient juste d'ajouter un petit plus. Je prends le cas des personnes vivant avec les maladies incurables, disons ce qu'on appelle le VIH/SIDA, ainsi de suite. Mais nous savons ce qui se passe dans le secteur de l'association publique par rapport à ces gens. Aujourd'hui, on peut remercier la communauté internationale à travers les organisations non gouvernementales qui se sont placées les multinationales. Ils ont quand même essayé de banaliser ces faits-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, les moteurs du secteur de l'emploi et du travail congolais ne dépendent pas de ces textes. Les moteurs dépendent de la politique économique qui doit être mise en place. Pourquoi? Aujourd'hui, il est prouvé qu'il est tout à fait difficile que le secteur public en soi puisse résoudre les problèmes de travail. Nous venons de fêter le 1er mai, la journée internationale du travail. Vous savez la condition misérable dans laquelle est placé les travailleurs congolais. Moi, je dis tout simplement, compte tenu de cette difficulté que le pouvoir public rencontre pour améliorer les conditions du travail, il faut une politique qui doit privilégier l'entrepreneuriat privé. Il faut que nous mettions en place des structures réglementaires, ou je dirais même des structures étatiques, pour propulser les créateurs d'emplois qui sont les entrepreneurs. Et là, je vais très loin pour dire, les écoles qui forment les travailleurs congolais, les universités doivent être techniques, c'est comme ça que je dis, aujourd'hui le Congo a besoin des universités de management, des écoles de management, puisque rendez-vous sur le terrain de travail, vous allez observer tout simplement que ceux qui vivent dignement sont ceux-là qui sont dans les secteurs informels, ceux qui sont dans les secteurs privés, alors que ceux qui sont dans les secteurs de l'État, avec tous les textes qui existent, messieurs les journalistes, ils sont en train d'être paupérisés.
Et là, alors, Sylvain, vous soulevez une question avec plusieurs dimensions. Vous l'avez dit, il y a d'abord le problème d'avoir les textes. Ce n'est pas le fait d'avoir un code de travail révisé avec tout ce qu'on peut y apporter comme une innovation qui peut faire aujourd'hui que la situation de l'emploi s'améliore, les conditions de travail, par exemple, au niveau de la fonction publique. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais vous estimez qu'on peut avoir ces textes. Mais si d'un côté, il n'y a pas l'amélioration de la gouvernance économique, de la gouvernance politique, le texte ne peut pas accompagner les conditions de travail et leur amélioration. Rappelons quand même par rapport à ce que vous avez soulevé pour les VIH, pour dire aujourd'hui que cette loi exclut le fait qu'on ait un statut sérologique VIH positif comme un motif de licenciement. Vous le savez, dans le temps, quand on était diagnostiqué positif au VIH, on pouvait facilement bien vous mettre dehors, ne pas continuer à travailler. Mais aujourd'hui,
Mais si je peux dire quelque chose, vous savez, dans ces pays, les textes ne manquent pas. Mon problème ici, c'est question de savoir que voudrons-nous faire pour le secteur de travail. Moi, je dis une politique centrée sur l'économie individualisée, l'entrepreneuriat. Ça veut dire quoi? Il faut que l'État congolais arrive à encourager l'entrepreneuriat et même l'élargissement de la capacité à ce que ceux qui travaillent chez l'État congolais puissent travailler aussi ailleurs. Regardez la politique de l'essaimage française.
Ce
code de travail doit encore être révisé
avec pour permettre à ceux qui travaillent au
mandat international.
Voilà, c'est le moyen mandat public de pouvoir aussi travailler ailleurs. C'est ce que vous souhaitez. Mais quant à l'entrepreneuriat, on l'a dit, c'est pourquoi faudrait-il aujourd'hui avoir un code de travail qui puisse permettre à ceux qui se trouvent dans le secteur privé puissent avoir un contrat de travail normal. C'est pourquoi même le code prévoit la rupture de cette convention d'un commun accord. Il faudrait que le contrat soit défini pour chaque personne en fonction de ses capacités et comme ça, il pourra être rémunéré en fonction de cela. Merci beaucoup, Sylvain. Juste à l'heure, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jumac.
Vous avez suivi Sylvain qui estime que le problème, ce n'est pas de pouvoir. On peut reviser autant de fois, mais si notre gouvernance économique ne permet pas qu'on se retrouve dans un cadre où les gens peuvent créer l'emploi, créer des entreprises, il sera difficile que le texte, même quand il sera amélioré, puisse avoir de l'impact aujourd'hui sur les travail dans notre pays.
Je suis de même avis avec lui, parce que réviser le code du travail, c'est bien, mais savoir améliorer le travail lui-même, c'est aussi très bien. Parce que vous savez, l'État congolais doit d'abord chercher de telle manière améliorer le travail en accordant peut-être la possibilité aux Congolais d'avoir l'accès à ce travail-là. Parce que vous vous rendez compte que pour le moment, accéder au travail, ça devient vraiment un problème très difficile, à tel point qu'il y a des qualifiés qui ne savent pas là où travailler, et surtout aussi la politique d'engagement qui n'est pas du tout bonne. À mon sujet, je pense que l'État congolais doit d'abord en premier lieu améliorer le travail, créer des travaux, en telle sorte que les conditions seront favorables si il y a cette opportunité-là de pouvoir travailler.
Merci beaucoup, Justin. Vous estimez que le problème, c'est qu'il faut que le travail soit amélioré, mais que les conditions aussi d'accès à l'emploi soient facilitées. Ceux qui terminent les études aujourd'hui ont-ils accès à l'emploi ? Qu'on se dise, il n'y a pas l'emploi. Faut-il aujourd'hui d'abord commencer par là, et comme ça, on peut accompagner bien avec le texte. Merci beaucoup, Justin. Albert, vous êtes à Kananga. Bonjour, Albert.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à notre invité.
On vous écoute, Albert.
Oui. D'après moi, je peux citer un peu quelques éléments qui peuvent un peu, en fait, entrer en ligne de compte pour un peu, en ce qui concerne le travail. La première des choses, c'est la création de l'emploi, comme les autres viennent de le dire. Aussi, la protection sociale. Troisième point, c'est droit au travail. Et le dernier point, c'est dialogue social. Ce sont les éléments qui sont devenus aujourd'hui très importants que notre gouvernement doit mettre en œuvre pour arriver aussi à une croissance économique soutenue et durable, partagée des plus emplois productifs. Aussi, il faut noter ceci que notre gouvernement doit mettre en œuvre aussi le point que je viens de soulever ici pour que notre travail soit un peu productif et aussi assurer le bien-être de la population. Je peux aussi donner quelques propositions.
Oui, allez-y.
Pour lutter efficacement contre le chômage, comme notre thème d'aujourd'hui aussi, il faut lutter contre le chômage. Et la première des choses, notre gouvernement doit encourager la création d'entreprises par les jeunes. Aussi, et il doit alléger la fiscalité des entreprises pour rendre les entrepreneurs plus heureux et ainsi favoriser la création donc d'emplois. La deuxième proposition, c'est favoriser la mobilité des salariés présents dans l'entreprise. Aussi, la troisième, il faut noter que notre gouvernement doit adapter le système éducatif, notre système éducatif ici que nous avons maintenant, aux évolutions de la société. Donc, ici, notre problème doit être à ce niveau. Il faut avoir un niveau d'éducation très élevé, aussi marqué par un déterminisme qui est social très important.
Merci beaucoup, Albert. Quand vous avez évoqué cette question de la création de l'emploi, vous estimez qu'il faut alléger la fiscalité, permettre à ce qu'aujourd'hui les gens puissent investir pour créer les entreprises. C'est de cette façon-là qu'on peut permettre aux gens de pouvoir accéder à l'emploi à mémoire de cette journée. Pour d'autres aussi avoir des textes juridiques qui accompagnent la création de ces entreprises et surtout l'accès au marché de l'emploi. C'est pourquoi on estimait que le code de travail que nous avons, il était parler beaucoup de dispositions ne répondaient pas à l'évolution du marché de l'emploi aujourd'hui. Merci beaucoup Albert. Daniel, vous êtes à Lubumbashi. Mais si nous revenons à certaines modifications du code du travail, Daniel, il y a par exemple la rupture du contrat de commun accord entre employeurs et employés. Il y a la fixation de la semaine du travail à 6 jours, la possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail sans que cette suspension soit considérée comme une cause de résiliation de contrat. Un étranger a désormais la possibilité, dès que la loi est promulguée, d'être désigné à la direction d'un syndicat. Alors, il y a aussi cette question de statut du sérologique au VIH qui n'est pas le motif pour le licenciement. Est-ce que pensez-vous vraiment que ces quelques points, Daniel, une fois appliqué, ça peut tant mieux que mal contribuer vraiment à l'amélioration du système de l'emploi dans notre pays, Daniel.
Merci Pierrot pour la parole. Je salue notre invité et tous les amis qui sont à la radio. Très belle question Pierrot. Dans tout ce que vous venez d'énumérer là comme proposition de la nouvelle loi qui aura à être promulguée, ce qui est intéressant, le point intéressant personnellement, c'est celui qui concerne l'expatrié qui peut avoir la possibilité d'être nommé dans le syndicat ou même diriger l'entreprise. On a l'impression que quand l'entreprise est dirigée par un expatrié, les travailleurs trouvent leur compte et les choses semblent tourner. Je prends l'exemple ici au Katanga de M. Piaès avec la SNCC et M. Fortin pour la GECAMIN. Quand ces deux messieurs ont dirigé ces deux entreprises publiques, ils étaient appréciés, même lors de leur départ, les travailleurs ou les syndicats n'ont pas voulu de leur départ, ils réclamaient ces messieurs. Tout simplement parce que ce sont des messieurs qui ne répondaient pas au dictat. Et quand nous voyons tout ce qui caractérise l'emploi ici chez nous, c'est dans le secteur public, c'est des termes qu'on a ici, clientélisme, tribalisme, favoritisme. Et tout cela ne permet pas qu'on ait un travail productif. Parce que quand on place des gens, même s'ils sont incompétents, mais parce que ce sont des gens de ma tribu, de mes frères et consorts, mais on n'aura pas un résultat exporté. Le problème majeur, c'est pas un problème de sexe, mais c'est un problème d'homme et de notre mentalité, de notre façon de faire. On peut bien modifier ces textes, mais si la mentalité reste toujours celle congolaise, caractérisée par des termes racistes, comme je disais le français, cette loi ne servira à rien.
Alors, pour vous, Daniel, vous pensez que ce point qui vous a intéressé, hein, la possibilité d'un étranger d'être désigné à la direction d'un syndicat, pensez-vous que, comme vous l'avez vu avec les entreprises publiques, du portefeuille de l'État, vous avez évoqué la SNCC, la GECAMIN, en désignant clairement. Le fait que les expatriés ont pu diriger ces entreprises, ça a été bien dirigé. Pensez-vous que nos syndicats pourront devenir aussi plus efficaces si jamais des expatriés étaient élus à désigner à la tête de ces syndicats?
C'est bien, parce que selon moi, ce que je vois, c'est que ces expatriés-là ne répondent pas aux dictats politiques. En voyant, c'est un zéro. On sait qu'on fait la face, le syndicalisme aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont des relais du pouvoir. Les travailleurs sont en train de se plaindre tout récemment ici à la GECAMIN avec le nouveau code de star familial ou des intérêts autour des travailleurs. Les syndicats qui sont corrompus, les syndicats qui répondent à des dictats politiques, ce sont en fait des relais des partis politiques en termes de syndicats. En fait, les expatriés là, du moins, on a quand même peu d'assurance qu'ils n'auront pas à répondre à des dictats politiques. Le problème.
Merci beaucoup, Daniel. Vous avez retenu le fait, la possibilité d'un étranger d'être désigné à la direction d'un syndicat en estimant que, avec l'expérience de ce que vous avez vécu des expatriés qui ont pu bien diriger des entreprises, ça peut faire aussi que le syndicat devienne plus performant et que les expatriés désignés à la tête des syndicats ne puissent pas subir les pressions et les dictats des employeurs. Merci beaucoup, Daniel, de nous avoir appelé de Lubumbashi aussi. Vous êtes à Kikwit, bonjour. Allô, Rossignol, bonjour.
À tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, bonjour. De tous les points, oui, Rossignol, de tous les points que nous avons énumérés, les points qui ont été apportés comme modification, comme innovation au code du travail, quel est le point qui vous a retenu aujourd'hui, que vous pensez effectivement qu'il a été très important pour améliorer les conditions de travail dans notre pays?
En tant que médecin en formation, ce qui m'a vraiment retenu, qui a vraiment donné aussi du souffle dans notre mode de travail, c'est ce qui concerne le VIH.
Mm-hmm.
Je connais que quand on est séro positif ou séro négatif, personne ne connaît le moment de sa survenue. Bon, si un travail exige l'état sérologique, pour moi, il est déjà suspect. Puisque un travail doit suivre les normes de morale. Quand vous êtes entrepreneur, ou bien vous travaillez dans une entreprise, vous voulez chercher l'état sérologique de vos agents. C'est-à-dire la morale déjà est en décadence. C'est pour cette raison, nous en médecine, par exemple, quelqu'un peut commencer la fonction négatif, à un moment donné, il y a séroconversion. C'est-à-dire en manipulant les sang, les malades qui sont affectés, et vous pouvez vous infecter. Alors, quand on dit qu'on doit licencier quelqu'un puisqu'il est séropositif, là, ça ne marche pas.
Oui, mais là, vous avez renversé Rossignol. Nous n'avons pas dit qu'on doit licencier. Dans les temps, on licenciait les gens quand ils étaient séropositifs. Dans une entreprise, quand on découvrait qu'une personne est atteinte du VIH, elle était carrément licenciée. Mais là, aujourd'hui, la loi interdit de licencier quelqu'un parce qu'il est séropositif. Et d'ailleurs, il y avait même des entreprises où, pour passer les tests médicaux, pour être recruté, on demandait les tests de VIH. Cela était considéré comme une stigmatisation qu'il ne faut pas demander à quelqu'un avant de les recruter qu'il passe les tests de VIH. Cela veut dire aujourd'hui, on ne peut pas licencier quelqu'un parce qu'il est séropositif. Je crois que c'est ça maintenant, c'est que le code de travail interdit qu'on puisse licencier quelqu'un qui est séropositif au Rossignol.
Ça, ce sont des avancées significatives.
Mm-hmm.
Ça, moi, il faut féliciter. Quelqu'un qui a pris une telle initiative, c'est-à-dire qu'il a été bien intentionné, ça, nous ne pouvons pas dire le contraire.
Mm-hmm.
Pour moi, il est sur la bonne marche. Je ne sais pas s'il peut y avoir des gens qui peuvent me contredire là-dessus. Mais je tiens à connaître l'état sérologique de quelqu'un. Pour moi, je trouve que c'est non.
C'est déjà une façon d'indexer, une façon de pouvoir. On peut dire stigmatiser la personne parce qu'aujourd'hui, qu'on soit porteur de VIH, on est capable de pouvoir faire tout, travailler, accéder au traitement, travailler, être productif comme tout le monde. Alors aujourd'hui, c'est le statut ne peut pas être un motif de licenciement dans notre société aujourd'hui. C'est ce que le nouveau code de travail interdit. Merci beaucoup, Rossignol, de nous avoir appelé de Kikwit et Clément. Vous êtes à Kinshasa. On sait que la plupart des gens qui travaillent dans notre pays, hein, et ils étaient liés par ce qu'on appelle la convention collective. Cela veut dire que vous êtes à 500 personnes engagées ou 20 personnes. Vous tous, vous répondez à un commun accord entre votre employeur et votre employeur. Bien sûr, il y avait aussi des employés qui répondaient comme ça. Mais le code de travail, le nouveau, estime qu'il faut amener la rupture de ces systèmes-là. Il faut que chaque personne qui doit être engagée ait un contrat en bonne et due forme. Parce que le contrat doit dépendre d'un individu à un autre plutôt qu'une convention qui nous lie tous, alors que nous devons chacun ses performances, ses capacités, son travail et son rendement. Alors c'est une des innovations, si on peut dire ainsi, du nouveau code de travail, Clément. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue par rapport à tout ce qui a été revu, le Congo ne manque pas de textes, comme le disait Tiffin tout à l'heure. Le Congo ne manque pas de textes. Il y a des bons textes, même tout ce qui a été revu, c'est pour encourager les travailleurs. Mais le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Le plus grand problème de notre pays, ce n'est pas le fait d'avoir les textes avec un bon français. Et quand vous essayez de voir les titres de mon travail, de faire des études qui a parlé au moins sur les développements politiques de ce pays face à la formation des cadres. Alors, quand vous essayez d'interroger ce travail, vous allez trouver que, juste là, il n'y a pas une formation qui se fait effectivement. C'est ce qui fait maintenant que non. Tout ce que nous allons faire, ça a des répercussions sur notre formation. Ça signifie quoi? Il fallait d'abord avoir un cadre qui comprend et qui fait interpréter les textes pour qu'il sache aussi les mettre en pratique. Voyons un peu tout ce qu'il y a des textes dans notre pays. C'est mal interprété par même les intellectuels congolais. Très mal interprété. Tant qu'il n'y aura pas les développements politiques, tous les textes, c'est nul et zéro. Ça, c'est mon point de vue.
Merci.
Tant qu'il n'y aura pas le développement politique dans ces pays, tous les textes que nous pouvions faire, c'est pour flatter seulement la masse, pour flatter l'opinion dans l'entretemps.
nous n'aurons jamais réussi ou eu un résultat vraiment escompté.
Alors Clément, est-ce que vous pourriez permettre à d'autres compatriotes d'expliciter, de comprendre votre pensée, vous pouvez l'expliciter en leur disant qu'il faut un développement politique et comme ça on pourra mettre en place le texte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là concrètement pour permettre à d'autres auditeurs de comprendre l'esprit de votre travail?
Ok, je voulais dire ceci parce que je me posais la question par rapport à tout ce que les autres ont dit hier.
Mm-hmm.
Que non, s'il n'y a pas le développement en Afrique et au Congo en particulier, c'est le fait qu'il n'y a pas eu, il y a eu l'impréparation. Il y a eu l'impréparation et manque de cadre. Et aujourd'hui, nous avons un pléthore de cadres, mais il n'y a pas toujours le développement.
Oui.
Mais je me pose la question en plein millénaire. Pourquoi nous avons des textes qui peuvent nous aider à avancer aujourd'hui? Je me pose cette question.
Mm-hmm.
Nous avons tous les textes qui peuvent faire que la vie des gens soit meilleure. Mais la vie des gens ne s'améliore pas, au contraire, on recule. On recule vraiment à 100 pas, à 1000 pas. Pourquoi c'est là? Et pourquoi j'ai dit, c'est le sous-développement politique qui serait à la base de tout cela.
Mm-hmm.
Si nous acceptons d'abord de mieux former nos cadres, demain nous allons atteindre le développement politique et ce développement politique va permettre à tout le monde de commencer à respecter les
gestes
et c'est ce qui apportera un bon fruit.
Merci beaucoup Clément pour cette dimension, c'est important, on l'a toujours dit d'ailleurs, hein, les gens estiment que le Congo n'a pas décollé parce qu'à l'indépendance on n'avait pas assez, beaucoup de gens qui étaient formés, on estimait que ceux qui ont réclamé l'indépendance n'avaient pas assez évolué scientifiquement, les uns et les autres présentent ces arguments, mais vous estimez là aujourd'hui que nous avons un pléthore des cadres, des millions de diplômés, mais le problème c'est que nous sommes toujours au même niveau, nous avons les mêmes problèmes, la même situation des pauvretés. Et alors vous estimez que le fait qu'on puisse avoir ces codes de travail révisés avec autant de textes qu'on considère comme d'articles comme innovation, mais dès lors qu'on n'a pas évolué sur le plan du développement politique, c'est-à-dire de notre conception même, de quelle manière on peut mettre en place, en pratique et appliquer ces codes de travail, ça sera difficile aujourd'hui que la situation de l'emploi ou de travailleurs puisse s'améliorer. Merci beaucoup Clément. Dieu merci, vous êtes à Kisangani, vous gardez la ligne et j'appelle ici à Kinshasa. Je rappelle à nos auditeurs que le monde a célébré le dimanche 1er mai dernier la journée internationale du travail, une occasion pour les États et leurs gouvernements de réfléchir sur les projets d'une société émancipée par la lutte efficace contre le chômage. Et les cas, particulièrement RDC, c'est le code de travail qui a été discuté au Parlement, adopté au Sénat. 15 articles sur les 334 ont été révisés pour apporter des innovations et une nouvelle dimension, comme par exemple le passage des heures des services de 9 à 8 heures, la possibilité pour une femme d'effectuer un travail de nuit, mais aussi pour une femme qui peut arrêter à tout moment les travails pour cause de maternité sans que cela ne soit considéré comme une cause de suspension de son contrat, la possibilité d'un étranger de pouvoir être désigné à la direction des syndicats, les statuts sérologiques aujourd'hui au VIH ne peut pas constituer un motif de licenciement, mais aussi l'âge de conclure les contrats de travail passe de 16 à 18 ans. Voilà autant d'articles ramassés de gauche à droite. Que pensez-vous de ces articles et de leur impact sur l'amélioration du cadre de travail dans notre pays? 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Kouté sur Radio Capi.
Dieu merci, merci de nous avoir appelé de Kisangani. Bonjour, bienvenue dans cet échange.
Et bonjour à la Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Mm-hmm.
Oui, le travail dans une nation est considéré comme le thermomètre social. On ne peut jamais se prétendre diriger une nation ou soit un pays avec quiétude ou avec sécurité s'il n'y a pas le travail dans le pays.
Mm-hmm.
Maintenant, la question des modifications de notre code du travail. La question qu'on se pose, est-ce qu'il y a l'adéquation? Est-ce que les articles qu'ils ont révisés là, est-ce que c'est les besoins vraiment des travailleurs congolais? Moi, je pense que le besoin des travailleurs congolais aujourd'hui, c'est de voir comment ils vont améliorer leurs conditions de travail, notamment par l'amélioration des conditions salariales. Parce que quand on est travailleur, moi comme expert en santé publique, je vois les travailleurs et derrière les travailleurs, il y a ce que nous appelons les acteurs sociaux indirects. Donc derrière lui, il y a sa femme et la famille et les oncles et les tantes et tout le monde compte sur lui. Imaginez-vous qu'on a envoyé quelqu'un, on a mobilisé les moyens, on a envoyé quelqu'un de venir étudier comme moi, je suis là à l'université de Kisangani. Et que j'ai terminé mes études, je trouve un emploi qui ne me donne pas le salaire comme il faut. Alors derrière moi, comme je viens du village, il y a mes frères, mais toutes mes tantes, ils comptent sur moi. Une fois que j'ai un petit salaire, un salaire suffisant pour moi, je suis obligé de les envoyer. Tu sais, les savons, vous voyez que derrière moi, il y a aussi des gens qui dépendent de moi de façon indirecte. Moi, je pense que ça, ce n'est pas vraiment les besoins des populations congolaises. Et pour dire, quand vous amendez des lois comme ça, il faut voir aussi réviser le régime de sécurité sociale à l'INSS, parce que vous avez parlé des histoires de VIH-SIDA. VIH-SIDA en question, on demande d'abord l'examen d'embauche. Est-ce que VIH-SIDA c'est une maladie professionnelle? Parce qu'une maladie professionnelle, c'est une maladie contractée dans le milieu professionnel. Quand vous venez peut-être de la maison, dans l'entreprise, vous quittez l'entreprise et là vous prenez des restaurants, de rentrer à la maison, c'est ça ce qu'on appelle les maladies professionnelles. Est-ce que le VIH-SIDA est classé parmi les maladies professionnelles? Ou ça, c'est on doit éliminer ces critères lors de l'examen d'embauche? Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pris compte. Moi, comme étant technicien santé publique, vraiment, j'ai du mal à comprendre vraiment cette modification. Voilà un peu mon point de vue.
Merci beaucoup. Je merci beaucoup. Vous estimez que les articles visés dans cette modification du Code du travail, est-ce que cela vraiment rencontre le besoin de la population aujourd'hui? Est-ce que le fait de passer de 9 à 8 heures, est-ce que le problème de la femme qui doit faire le travail des nuits, le problème de la femme qui doit interrompre son contrat pour cause de grossesse, vous estimez que c'est pas aujourd'hui le grand débat? Le débat, on aurait aimé voir comment dans les différentes propositions de loi qu'on s'occupe plus du régime de sécurité sociale, que cette question de l'amélioration des conditions de travail, de salaire soit plus examinée, parce que c'est ça ce qui rencontre le besoin urgent de la population aujourd'hui, tant à savoir le rôle des autres articles modifiés, mais dès lors que les conditions salariales ne s'améliorent pas, les restes d'articles qui peuvent être réfléchis au niveau du Code du travail ne peuvent pas avoir de l'impact. Merci beaucoup, Dieu merci. Jafet, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Jafet, bonjour. En attendant qu'on puisse récupérer Jafet sur sa ligne, on a aussi à Kinshasa José. Bonjour José.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute. Vous avez suivi notre ami de données qui disait tout à l'heure, mais le problème c'est que les articles qui sont revisés au niveau du Code du travail, si cela ne rencontre pas la préoccupation majeure de la population aujourd'hui, de ceux qui travaillent, qui est le salaire, le traitement, le reste, ça ne peut pas avoir une influence directe sur soi dès lors que ça ne touche pas au salaire et aux conditions de travail.
Monsieur Pierrot, je m'excuse, je vais aborder ce sujet de ma manière, d'après mon point de vue. Je voulais plutôt dire que modifier les textes, les codes de travail, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe avec notre pays? On a beau entendre ce bon discours, ces discours de changement, des modifications, des lois, des ceci, de cela, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'il y a du travail au Congo? Est-ce réellement qu'on ne ferme pas les yeux? Est-ce qu'il y a du travail au Congo? On a sacrifié les grandes entreprises qui pouvaient embaucher des milliers de personnes. La société de chemin de fer, la minière de Bakwanga, la générale de carrière de mines, l'autre côté de Kivu qu'on appelait autrefois Sodimiza et autres. Bon, toutes ces sociétés-là sont allées où? Il y a l'ONATRA ici qui est en pleine faillite. Bon, on n'est plus en mesure de les réhabiliter. Qu'est-ce que moi je veux dire par là? L'État devrait d'abord procéder à l'ouverture des très grandes sociétés lui-même, l'État congolais. Ouvrir ces grandes sociétés, embaucher un grand nombre de travailleurs. Comme ça, à partir de ces grands travailleurs, modifier cette loi-là, ça pouvait marcher. On a laissé les pays être envahis par ces petits débrouillards, des Chinois, des Indo-Pakistanais, des ceci et de cela, qui pullulent ici avec des sociétés de gardiennage et autres, qui s'imposent sur les salaires et sur la modalité de travail. Qui est-ce qui va les taper des doigts sur leur front, leur visage, pour leur dire que, voilà, messieurs, nous avons changé le code et nous devons désormais c'est ceci et cela. Parce que les soirs, eux-mêmes la passeraient encore là-bas pour retirer de grandes enveloppes contre lesquelles ils fermeraient les yeux. Mais tant bien même les travailleurs viendraient pour se plaindre, voilà, on m'a licencié à cause de, on m'a dit ceci chez nous, il est dit ceci et cela. Qui est-ce qui aura le courage, après avoir perçu cette enveloppe-là, qui viendrait voir le patron pour lui dire que voilà, non, le code dit ceci, mais comment vous... Voilà. Voilà la grande préoccupation que j'ai, M. Pierrot, qu'on ne ferme pas les yeux. L'État congolais devrait d'abord procéder par ouvrir ou réhabiliter, je ne sais pas si c'est possible, nos grandes sociétés là, engager en grande quantité les travailleurs congolais, et puis voir celui qui viendrait comme un étranger ouvrir, s'il pouvait avoir du poids, comme ça il s'adapterait au code facilement, sans problème, parce qu'on dit ailleurs, c'est lui qui vous nourrit et c'est lui qui vous commande. Vous allez vous imposer avec votre code là sur celui qui vous fait du bien sur vos travaux que vous ne savez même pas prendre en charge.
Merci beaucoup, José. Vous estimez que dès lors que l'État n'a pas la même mise sur l'emploi dans notre pays, c'est votre point de vue en disant, quand on regarde aujourd'hui l'État dans lequel se trouvent les entreprises du portefeuille de l'État, on a ne cessera jamais de parler de la MIBA, de la GECAMINE, de l'Exonatra, et toutes ces entreprises qui sont presque en faillite, qui sont déjà en faillite, et qu'on ne peut plus peut-être, je ne sais pas si on est capable de pouvoir le redresser aujourd'hui et pouvoir donner l'emploi aux gens. Cela peut protéger la population contre la manipulation de tous ces étrangers qui viennent envahir le secteur avec le petit commerce et avec les sociétés de gardiennage où les gens sont assez mal payés, ils ne sont pas assez contrôlés et on ne sait pas comment on peut arriver à faire adapter, appliquer le code du travail et réviser dès lors qu'on n'a pas la même mise sur le secteur de l'emploi. Et d'ailleurs, quand je regarde la discussion sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, c'est ce qui venait de dire tout à l'heure Jude Louboyette qui nous a écrit des Kananga. Il dit la modification de l'ancien code du travail n'améliorera pas la politique de l'emploi en RDC, tant que les mêmes personnes qui avaient élaboré le premier code du travail sont toujours les mêmes, qui continuent à faire fonctionner le pays avec le clientélisme, les systèmes de recommandation, les tribalismes dans les recrutements. Cela ne peut rien apporter comme solution. Patient, Paul Ngoï dit ceci, modifier certains articles ne garantit pas l'application car les anciens nous ont servi à quoi, l'ancien code du travail à quoi nous a-t-il servi. Les gens continuent toujours à travailler dans le même système, qu'on ait travaillé pendant 8 heures, qu'on ait travaillé pendant 9 heures, la situation n'a pas changé. Des filles comme des garçons, les gens travaillent, ils n'ont jamais été formés, ils n'ont jamais été récits, ne sont jamais passés à des formations. Les conditions de travail sont restées les mêmes. Je ne vois pas comment le nouveau code du travail pourra améliorer la situation sur terrain. Il y a aussi Serge Gatta qui estime que nous avons beaucoup de difficultés dans notre pays à faire respecter les lois. Ce n'est pas le fait qu'on puisse avoir un code qu'on acclame, que ce code sera mis en pratique et respecté par les employeurs dans notre pays. C'est ça notre grand mal aujourd'hui. Chérubin Chiamala, qui est aussi à Kananga, exprime pour sa part que c'est une bonne mesure, hein, le fait qu'on puisse avoir un code de travail. Quant à moi, je pense que ça peut arriver quand même à faire améliorer les conditions de travail dans notre pays. Alors, et surtout, le fait qu'on puisse avoir des étrangers à la direction des syndicats. Je salue cette initiative. Deo Boudilo dit ceci, tout ce que nos représentants font au niveau des chambres, c'est bon, mais nous devons noter que le code du travail ne s'applique pas pour les agents de l'État, il s'applique pour les entreprises privées, organisations non gouvernementales. Pourquoi ils ne veulent pas modifier les statuts des agents et fonctionnaires de l'État? Rappelons quand même qu'on a reçu plusieurs fois le ministre de la fonction publique qui nous a expliqué par rapport à cette loi sur les statuts, les agents des carrières des services publics qui doit être examiné aussi. Nous pensons qu'un jour ou l'autre, il pourra être promulgué et qui était là va rendre va améliorer les conditions de travail au sein de l'administration publique. Alain Bolojoa de Kinshasa, il convient de signaler que de prime abord que la question de l'emploi n'est pas un fait isolé. Elle relève de la politique d'emploi qui est une politique sectorielle qui doit se greffer à la politique économique globale. Ainsi, pour dire qu'il ne suffit pas d'agiter l'arsenal juridique des dispositions, mais plutôt de repenser la politique économique en vue de mettre chaque Congolais en position d'opérer sa croissance économique individuelle, par voie des conséquences à lui permettre de s'affranchir de la pauvreté chronique qui est en train de les déshumaniser. Je crois même, tout à l'heure nous étions avec notre ami Clément de Kinshasa, qui a beaucoup insisté beaucoup sur ça. Il dit, le fait d'avoir des textes juridiques et qu'on ne repense pas notre politique économique et notre politique en matière d'emploi ne peut pas faire appliquer facilement le code du travail, quand même il serait révisé. Amos, vous êtes à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Bonjour Amos.
Bonjour Pierre, bonjour à tous les peuples congolais qui suivent la radio congolaise à ce même moment. Mm-hmm. En fait, nous avons suivi que les sénateurs venaient adopter un nouveau code du travail et on se demande finalement si nos élus, et là je vois les députés, même les sénateurs, s'ils comprennent le travail qui est le leur. Et c'est là que les Congolais ne parviennent pas à comprendre réellement le vrai travail de nos représentants au niveau du Sénat, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la plupart des fois, nous disons, le Congo ne fait pas la honte dans tous les domaines de la vie au niveau international par manque de bons textes. Nous faisons la honte au niveau mondial, à tous les niveaux, parce que nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas réellement les problèmes de l'homme congolais. Nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas les problèmes du Congo et qui sont animés de mauvaises volontés, qui sont des égoïstes en fait. Nous, la préoccupation que nous avons, d'abord, on ne sait pas si c'est là qu'il devait commencer le sénateur. Nous, à mon avis, je pensais que le sénateur devait voir comment créer les emplois. Parce qu'on ne sait pas quel sera le texte qui vient d'être adopté au moment où il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, toute la jeunesse congolaise est plongée dans le chômage. Plus de 95% des Congolais ne travaillent pas aujourd'hui. Mais on se demande finalement, avec le texte qui vient d'être adopté, à quoi servira ce texte s'il n'y a pas de travail qui est
intéressant?
Il y a beaucoup de licenciés, beaucoup qui sont des sentinelles, d'autres sont des motards. On ne sait pas si ce texte sera appliqué pour ceux-là qui sont des motards.
Amos, pour ceux-là qui sont des motards, vous avez dit, pour vous, les sénateurs sont placés à côté de leur travail. Rappelons quand même la mission des élus, les députés, qu'ils soient députés ou sénateurs, on dit bien se voter des lois, c'est une chambre législative et contrôler les institutions. Par quel mécanisme pensez-vous que les sénateurs devraient se pencher pour la création de l'emploi s'ils ne peuvent pas examiner un
tel texte? Moi, je pense qu'on devait d'abord interpeller le ministre qui a en charge l'emploi et voir le premier ministre. Dernièrement, nous avons suivi le premier ministre donner son bilan de 4 ans en disant que son bilan est largement positif. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se fait voir? Sur le terrain, il n'y a rien. La situation est valablement chaotique. Mais aussi, nous avons suivi le premier ministre, le président de l'intersyndical dresser un bilan tellement sombre. Un tableau noir pour ce qui est de la vie que mène les fonctionnaires de l'État. Moi, je pense que nos élus sont en train de passer à côté. Ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils s'embrouillent parce qu'elles sont dans de bonnes conditions. C'est pourquoi ils ne peuvent pas s'intéresser de la vie que mène le peuple congolais. Nous avons apprécié dernièrement le président tanzanien, le nouveau président John Magufuli, qui a compris que la vie des fonctionnaires en Tanzanie, il y a ceux-là qui touchaient beaucoup d'argent par rapport aux autres. Et il a essayé de rabattre le salaire de ceux qui touchaient 18 000 dollars à 7 000 dollars pour permettre aux enseignants aussi d'être dans de bonnes conditions. Mais il faut voir le salaire qui touche aujourd'hui nos sénateurs, il faut voir le salaire qui touche les membres du gouvernement au détriment de tes fonctionnaires. Et c'est là que les députés, même les sénateurs devaient commencer, au lieu de commencer à s'embrouiller avec le texte, on ne sait pas à quoi servira cette
chose. Au moment où la situation dans le domaine du travail. Au lieu de pouvoir révisiter le code du travail, les sénateurs devaient plutôt interpeller le ministre qui a en charge l'emploi pour poser des questions, aller au fond pour dire qu'il n'y a pas de l'emploi, il faut qu'on crée l'emploi. Vous l'avez dit, il serait mieux que le Premier ministre s'était exprimé à l'Assemblée nationale. Et nous, on a eu d'ailleurs ces débats ici dans Parole aux auditeurs autour du bilan du Premier ministre avec toutes les questions de l'emploi. Je crois bien on a eu beaucoup d'émissions de Parole aux auditeurs consacrées à la situation du chômage et du chômage plutôt et de l'emploi. On a estimé qu'il y a des problèmes très sérieux dans ces domaines. Et pour vous, au lieu que les sénateurs se focalisent sur l'examen d'un texte qui va avoir des mal à être appliqué dans un environnement où il n'y a pas de l'emploi, il serait mieux qu'il se focalise sur le contrôle parlementaire autour des questions de l'emploi. Et c'est de cette façon qu'on aurait rendu service à la population. Merci beaucoup, Amos. Vincent, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, Vincent.
Ah, bonjour, Pierrot.
Pensez-vous, comme Amos, que vu la situation de l'emploi dans notre pays, avoir un code de travail révisé, ce n'est pas vraiment la grande préoccupation ou le grand besoin aujourd'hui de la population?
Oui, Pierrot, je veux aussi participer à cette émission. Je suis très content de ce que vous êtes en train de faire. Pierrot, le monsieur qui a voulu, je m'excuse, le sénateur qui a changé le code du travail là. Si vous regardez aujourd'hui dans nos entreprises ici, qu'on appelle les entreprises privées, où il y a des expatriés, ils travaillent bien. Mais Pierrot, comment ça fait-il que ces gens-là nous prennent en otage quand ils disent que vous ne prenez pas un congé, vous travaillez l'année sur l'année? Alors que vous travaillez avec d'autres étrangers qui sont même des travailleurs comme vous, et ils ont des congés. Nous, on n'a pas de congés. Alors qu'à l'époque, le Premier ministre avait dit ceci. Il avait dit qu'il y a un système pour que tout le monde passe à la banque pour être payé. Pourquoi l'État congolais n'insiste pas pour ces gens-là qu'ils payent aussi et que nos salaires passent à la banque pour que les gens voient que est-ce que nous payons des impôts sur l'État? Ça, c'est aussi de manque à gagner sur ce point-là. Il fallait que qu'on soit un système que même les entreprises privées, que tout le monde, que les gens aient aussi leurs droits. C'est-à-dire à la fin de dans une année, quelqu'un a son congé, il peut prendre son congé calmement. Ici, on vous donne des congés dans une entreprise privée, je ne sais pas si c'est des noms, je suis là, je travaille, mais on vous impose, on vous dit, vous prenez votre argent de congé, mais vous allez travailler. Mais le code du travail est là. Mais les entreprises privées, là, des expatriés, là, elles ne suivent pas ce code-là. Et comment on peut vivre, Pierrot? Même nos salaires, on peut toucher les salaires à la banque. Qu'on introduit, mais par exemple, si j'ai touché $100, on introduit des $100 dans une banque pour que l'État contrôle aussi qu'il y a des impôts qu'on peut payer ou des finances. Tout ça, non, ça n'existe.
Mais est-ce que Vincent aujourd'hui, est-ce qu'il y a les inspecteurs du travail qui passent quand même dans ces entreprises privées, qui sont, la plupart des gens sont utilisés, sont employés chez les Indo-Pakistanais, les Libanais et autres. Est-ce qu'il y a des inspecteurs du travail qui passent aujourd'hui pour se rendre compte de quelle manière vous travaillez? Avez-vous des syndicats aujourd'hui dans ces entreprises?
Non, ça n'existe même pas, Biro. Ça n'existe même pas. Même les inspecteurs, là, ils ne passent plus. Il y a même un auditeur qui disait qu'il y a d'autres points là qui se passent dans des points là. Que nous voyons, et des fois vous dites que ça marche convenablement, alors que les messieurs qui parlaient là, qui disaient que tout ça, ce sont des enveloppes qui s'arrangent dans un huis clos là où on donne. Mais on ne voit aucune personne. C'est comme ça que moi j'ai dit qu'avec cette autre émission là, vous pouvez nous aider de faire même les introduire même à la banque. Même si l'entreprise paye, mais qui nous paye à la banque. Même on peut nous donner même un jour, par exemple, nous sommes des grossistes. On peut dire que chaque samedi, on ne travaille plus. Les autochtones vendent les histoires. Mais nous, vous faites une année sur une année. Vous n'avez pas de congé. Si vous tombez malade, vous n'allez pas savoir que est-ce qu'on peut me retenir à ma place ou bien on peut changer une autre personne. Dans les cas où j'ai suivi des gens qui parlaient à votre émission.
Merci beaucoup, Vincent. Vous avez souhaité que Parole aux auditeurs vous aide. C'est de cette façon que, en ouvrant ces débats, ça permet quand même de découvrir des choses qui se passent. Hein. Vous l'avez dit bien, les gens qui travaillent chez les expatriés, les entreprises, la plupart de ces entreprises, il n'y a pas de congé. On travaille une année, sur une année, on te donne l'argent en refusant que tu ailles en congé. D'ailleurs, c'est plus grave même. Quand quelqu'un tombe malade, il ne sait pas aller se faire soigner parce qu'il a peur de perdre son emploi demain. Les gens sont payés au comptant, les salaires concernés pas par la banque, et vous auriez souhaité voir le Premier ministre, le ministère du Travail, les inspecteurs du Travail ouvrir les yeux pour ce qui se passe même au sein de ces entreprises, l'application même des SMIC, on a parlé aussi dans Parole aux auditeurs, je crois bien. On pourra, dans nos prochaines émissions, nous approcher du ministère qui a l'emploi en charge, voire même l'inspection du travail, pour ces genres de questions puissent être abordées. Alors, vous estimez que si on peut avoir un nouveau code du travail, c'est pas ça la solution, parce que déjà, on a un code du travail qui fixe toutes ces choses, la durée, les congés maladie, mais tout ça ne s'applique pas là où vous travaillez, c'est dommage. C'est comme si là où vous travaillez, ça échappait totalement au contrôle de pouvoir public. Merci beaucoup, Vincent, de ces témoignages. Vous êtes ici à Kinshasa. Et Jafet, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, Pierrot.
On vous écoute, Jafet.
Oui, je n'interviens pas pour faire la chronique du chômage en RDC. Plusieurs auditeurs ont décidé à le faire avant moi. Mais je commencerai peut-être par rappeler une très belle citation de Bernard Dabie, l'écrivain ivoirien qui a dit « Le travail assure l'indépendance ». Et dans une de nos langues de la RDC, on dit « Kisalu tata, kisalu mama ». Donc, cela démontre que le travail, c'est vraiment quelque chose de très important puisqu'il permet à chacun de s'émanciper. Vous avez relevé plusieurs points importants, notamment l'âge de conclure le contrat de travail qui passe de 16 à 18 ans. Vous avez aussi parlé des heures de travail qui passent de 9h à 8h. Vous avez aussi parlé de 6 jours de travail par semaine, tout ça. C'est bien beau de réformer certaines dispositions du code. Mais comme l'a dit le premier intervenant Sylvain, le problème ne se situe pas au niveau de loi. Le problème, c'est dans le respect, la mise en œuvre de loi. Lorsqu'on observe, par exemple, dans le secteur informel, ce que font les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Ouest-Africains, cela donne l'impression que ces gens-là n'aiment pas les lois de ces pays. Parce que, à leur niveau, dans ces secteurs informels, il se pose un problème. Vous ne pouvez même pas vous constituer en syndicat. On vous l'interdit carrément. Et on ne reconnaît même pas le droit de grève. On a vu ici à Kinshasa de vendeurs du grand marché qui avaient à un moment donné manifesté. Pour vous rappeler, c'est parce que ces gens-là ne reconnaissent pas le droit des grèves. Pourtant, les droits des grèves, comme les droits de se constituer en syndicat, sont des droits qui sont garantis et dans la Constitution et dans les codes du travail. Vous parlez du respect du SMIC, n'en parlons pas. Combien touchent les vendeurs qui sont chez les Chinois dans les magasins? Et en dessous du SMIC, et c'est inhumain comme traitement. Et il y a aussi un autre problème, peut-être auquel vous n'avez peut-être pas fait référence, c'est ce problème de la sous-traitance. Vous savez, au niveau, par exemple, des entreprises de télécommunications, il se passe un sérieux problème. Il y a cette sous-traitance qui traduit exactement l'exploitation de l'homme par l'homme. Et moi, je connais, par exemple, un ami qui fait des travaux de nuit. Il est encodeur chez l'une de ces multiples entreprises de communication. Et ce qu'il reçoit par jour, par rapport à ses travaux de nuit, où il est censé travailler entre 20h et 6h du matin. C'est insignifiant, mais il accepte de les recevoir parce que, bon, dans le secteur formel, c'est-à-dire au niveau de l'État, il n'y a pas de débouchés, tout semble être fermé. Et donc, vous voyez dans quelles conditions les gens se retrouvent, les gens sont contraints à rester dans cette situation-là. Quelqu'un parmi les intervenants a soulevé le problème du dialogue social. Le dialogue social, c'est un concept très intéressant parce qu'en fait, ça permet de mettre autour d'une table et les travailleurs et les employés. Mais pour qu'il y ait dialogue social, il faut que les gens s'y impliquent et travaillent ensemble. Les dialogues sociaux ne s'improvisent pas. Les dialogues sociaux, il faut qu'il y ait la volonté des employeurs de reconnaître les droits, de respecter les droits des employés. Mais si les employeurs, se retrouvent en situation de force par rapport aux employés, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous avez dit en début de l'émission toujours que la rupture de travail doit se faire de commun accord. Mais ce n'est qu'un énoncé. Dans la pratique, la rupture du travail n'est pas toujours de commun accord. Il y a toujours cette initiative du prince, l'initiative du prince, je vois l'employeur, qui, lui, rend le contrat de travail tel qu'il veut.
Et vous parlez de l'âge des travailleurs, l'âge qui doit passer, l'âge des conditions des contrats de travail qui doit passer de 16 à 18 ans. Regardez vous-même, dans la ville de Kinshasa, il y a des centaines d'enfants âgés de 6 à 14 ans qui se lèvent très tôt le matin pour vendre de l'eau, pour vendre les yaourts, pour opérer de leur vie. Mais ces enfants-là, étant plus qu'il est en contrat de travail, ils veillent sur la condition de ces enfants, personne. Des milliers d'enfants tireurs. Pourtant, il existe une loi de l'air sans protection de l'enfance et qui protège aussi les enfants dans les secteurs de
travail. En vous écoutant, il y a l'impression qui se dégage. C'est que le pouvoir public a carrément abandonné ces secteurs. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. En dressant ces tableaux, vous avez suivi Vincent qui est en train de travailler en ce moment dans une entreprise, bien sûr des expatriés. Vous avez suivi, il dit, il n'y a pas de congés, il y a tout ça. Vous l'avez décrit. C'est que la réalité, c'est que l'État, les secteurs échappent complètement, n'est-ce pas, au contrôle du pouvoir public aujourd'hui.
Dire que le secteur échappe au contrôle du pouvoir public, c'est peut-être mieux dire. Moi, je pense que le pouvoir public n'a même pas de contrôle sur ce secteur-là. Il a absence de contrôle.
Mm-hmm.
Parce que même lorsque je vous raconte ce que
je disais. Allez-y rapidement, il y a encore deux personnes en ligne. J'appelle terminer par là rapidement.
J'ai observé que, par exemple, nos amis chinois n'aiment pas vraiment les litiges individuels de travail arrivent juste devant les tribunaux de travail. Et même lorsque les litiges de travail va devant les tribunaux de travail, qu'est-ce qui se passe? Il se pose un autre problème, c'est le problème de l'indépendance, de l'impartialité de la justice.
Mm-hmm.
Et puisque les travailleurs ont toujours assez d'argent pour donner au premier juge, bon, puisque l'employeur n'en a pas, et pardon, les travailleurs n'en a pas, ce qui se fait, c'est que les droits des travailleurs sont...
Et c'est pour cela que nous revenons à ce que Amos nous disait tout à l'heure, qu'il faudrait qu'au niveau du Sénat aussi, on ouvre l'œil à inviter, interpeller le ministre qui a en charge l'emploi pour poser des questions, savoir si vraiment on contrôle ce qui se passe dans ces entreprises et de quelle manière les gens travaillent, si le code de travail déjà qui est en vigueur est respecté dans ces entreprises. Merci beaucoup, Japheth. Gérard, vous êtes à Colusi et Joseph Michel Kinshasa. Là, vous aurez à chacun 40 secondes. Hein, Gérard, merci de nous avoir contacté. Vous êtes à Colusi. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Mais rapidement, oui, Gérard.
Je suis vraiment très intéressé par rapport à la thématique du jeu.
Mm-hmm.
Ce qui est là, moi, je pense que de mon avis, par rapport d'abord au code du travail qu'on vient de promulguer là, il serait bien de commencer à promulguer les différents codes, tout ça, mais ce qui compte, c'est l'applicabilité aussi. Il faut que le gouvernement prenne des mesures pour faire vraiment et respecter la loi dans des différentes couches.
Mmh.
Il faut viabiliser l'information dans des différentes couches sociales. Par exemple, vous voyez ici chez nous, il y a des entreprises, il y a des différents sous-traitants qui œuvrent, mais les conditions dont les gens travaillent, mais ce n'est pas vraiment du tout, ce n'est pas du tout.
Et beaucoup de gens, d'ailleurs, ils ignorent même l'existence de ces différents textes juridiques. Oui, Gérard, et le problème que vous posez aujourd'hui, c'est qu'il y a même des gens qui travaillent, mais qui ignorent effectivement l'existence de tous ces textes. Alors, pour vous, Joseph, vous êtes à Kinshasa, dommage qu'on termine par là, mais si vous voulez placer le mot Joseph dans 10 secondes, placez le mot Joseph.
Allô?
Oui, placez le mot juste dans 10 secondes, Joseph, placez le mot.
Oh, c'est Joséphine aux États-Unis.
Ah, dommage, oui. Ah, oui, madame. Oui.
Mm-hmm. Allô?
Oui, dommage, madame, qu'on a vraiment à la fin. Et d'ailleurs, qu'on vous écoute avec un décalage de quelques secondes, ça ne va pas permettre vraiment que nous puissions aller plus loin. Merci aux uns et aux autres. Vous avez été nombreux à commenter ces sujets autour du code de travail révisé. Merci à toute l'équipe des productions de parole, aux auditeurs Gilles Longuebo qui était à la réalisation et coordination, Julie Faisa à la gestion du standard, Paul Bayanyama a été à la mise en monde, et Pierrot et la Mairie vous la présenter sous la supervision de Martin Sebouliango et des auditeurs. Au revoir.